Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bon, c'est vrai, on est presque 8 milliards, c'est vrai, ça peut jouer quand même sur l'environnement.
C'est pas parti pour s'arranger, on va cogboter, donc faut qu'on vive ensemble.
L'augmentation de la population n'agit pas trop parce qu'on est habitué à vivre ensemble.
Les cousins, les tantes, les oncles, les grands-pères, les grands-tantes, il y a toujours, les familles sont très larges.
La vie en communauté, ça ne nous dérange pas. On gère, on gère. Personne n'a choisi, par exemple, d'être guinéen. Tu ne peux pas dire à ton ami, ah, tu es guinéen, tu n'es pas bien, on va changer ta nationalité, tu vas être malien ou léonais, non, 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 non. Donc, on est égaux.
On a cette notion de communauté et d'acceptation de l'autre qui est un peu plus développée qu'ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous d'accepter le fait qu'on devienne si nombreux. 8 milliards. Oui, qu'on soit 8 milliards.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins ? Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Et oui, vous le savez maintenant, on a changé de titre d'émission. Et c'est la suite de notre semaine spéciale à l'occasion du passage à 8 milliards d'habitants sur Terre. Sommes-nous trop nombreux pour vivre en sécurité, pour vivre dans un habitat décent, pour manger à notre faim? Ça, c'était les questions des émissions précédentes qui sont d'ailleurs toutes disponibles en podcast. Et aujourd'hui, 8 milliards de voisins, 244 millions d'enfants non scolarisés. Sommes-nous trop nombreux pour aller tous à l'école? Parmi les objectifs des Nations Unies pour le développement, celui de la scolarisation universelle est constamment rappelé, avec des progrès indéniables, mais aussi avec des découragements, notamment quand l'aide au développement s'essouffle pour soutenir les gouvernements des pays les plus fragiles. Nous verrons dans quelques instants à quel point la démographie scolaire aussi peut donner l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Et puis il y a cette question, tous à l'école, mais pour apprendre quoi ? Comment garantir un accès à une éducation de qualité pour tous les enfants dans des pays pauvres ou en crise et avec une forte croissance de la démographie scolaire ? Comment l'école peut finalement résoudre ou pas les progrès, les problèmes réels des communautés ? Nous allons bien sûr en discuter avec nos invités.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Et nous entendrons dans quelques instants Ibrahim Natatou, le ministre de l'Éducation nationale au Niger. Son entretien a été enregistré. Également avec nous en direct, Nesmi Maniga, bonjour.
Bonjour, bonjour 8 milliards de voisins, bonjour Emmanuel.
Merci d'être en direct avec nous, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale en Haïti et vous vous exprimerez aussi sur l'urgence de la situation scolaire dans votre pays, mais également sur d'autres pays en crise. Vous êtes également membre du Partenariat mondial pour l'éducation. Amélie Gagnon, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes démographe à l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Patrick Monjourides, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste principal des politiques éducatives sur le rapport mondial de suivi de l'éducation à l'UNESCO, dont une nouvelle version, un nouveau rapport vient de sortir. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous avez la parole. Sommes-nous trop nombreux pour aller tous à l'école? 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
Bonjour voisins, bonjour voisines, c'est Ghislain Toshuido. Ici au Bénin, dans les établissements publics, l'effectif est pléthorique. Imaginez-vous, dans certaines classes du primaire, on a jusqu'à 70-80 apprenants. C'est beaucoup. Le matériel de travail, vraiment, c'est insuffisant. La langue de travail, c'est le français, mais les parents n'étant pas scolarisés, on n'accompagne pas les enfants et donc c'est seulement à l'école, en griffe, que les enfants font un tout petit peu d'effort de s'exprimer. Et donc c'est un peu ça la réalité là. Merci et excellente journée à vous.
Même constat aussi pour Carlos qui est à Lomé au Togo. Ici, le problème se trouve principalement dans les écoles publiques, nous dit Carlos, où il y a une surcharge dans les classes. Les élèves sont assis par 4 ou 5 par banc au lieu de 2. Une seule classe peut compter une centaine d'élèves avec un seul enseignant. Message aussi de Nasser à Niamey au Niger. Pour lui, il y a clairement un délaissement du système éducatif de la part du gouvernement. Le nombre d'enseignants est ridicule face à une marée humaine d'élèves, nous dit Nasser. Dans une seule classe, il peut y avoir également une centaine d'élèves. Les écoles en paillotte ne sont pas une solution, souvent source d'incendie. Les conditions d'éducation sont à revoir.
Écoute, par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai dit là, c'est important que je...
8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et tout de suite, nous sommes en ligne avec le ministre de l'Éducation nationale au Niger. Bonjour Ibrahim Natatou.
Bonjour Madame Emmanuelle Bastide.
Merci d'être chez 8 milliards de voisins. Chez vous, au Niger, quel est le pourcentage d'enfants en âge scolaire qui sont à l'heure actuelle exclus de l'école au Niger ?
Aujourd'hui, nous avons tout cycle confondu, primaire, premier cycle de secondaire, second cycle de secondaire, 4 645 725 élèves qui ne sont pas à l'école.
D'accord, 4 millions d'élèves qui ne sont pas à l'école. Mais alors vous, en tant que ministre de l'Éducation, comment vous faites pour tenir compte de la démographie scolaire? Il faut par exemple construire combien de salles de classe à chaque rentrée scolaire pour que chaque enfant puisse éventuellement trouver une place à l'école?
Sur le plan infrastructure, sur les 86 395 classes existantes, nous avons plus de 36 000 classes en matériaux précaires, c'est ce que nous appelons communément ici des classes en paillotte. Compte tenu du taux d'accroissement annuel de la population qui est de 3,9%, nous avons un besoin supplémentaire de 2 500 à 3 000 classes chaque année. Ça, c'est ce qui est d'un point de vue infrastructure. Aussi, d'un point de vue ressources humaines, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut recruter dans les 3 000 à 4 000 enseignants chaque année. Mais aussi, faire des recours à des formules d'éducation alternative de type non formel pour enfants âgés de 9 à 12 ans et de 13 à 15 ans. Bien sûr, aussi orienter les enfants vers les centres de formation de métiers. Mais aussi, regrouper les écoles à faible effectif pour optimiser et rationaliser l'utilisation des enseignants.
Oui, notamment des écoles en zone rurale, hein, où on a du mal à trouver des enseignants, à recruter des enseignants. Comment vous pouvez, dans ces conditions, construire une politique d'éducation pour tous avec une telle contrainte démographique? Vous dites qu'il faut ouvrir plusieurs milliers de classes, hein, chaque année, recruter des enseignants. Comment vous faites, compte tenu de vos contraintes budgétaires?
Emmanuel, il y a bien sûr un passage très important que je voulais dire. Bien sûr, nous voulons aussi promouvoir la formation à distance à travers l'utilisation d'éthique pour optimiser les ressources en enseignants, en salle de classe et en manuels scolaires. Nous misons aussi sur la scolarisation des filles, le changement de mentalité en matière de planification familiale et de santé de la reproduction pour capter ce que nous appelons les dividendes démographiques. Bien sûr, la question que vous venez de poser, évidemment, au regard de toutes ces contraintes, le chemin à parcourir pour une politique éducative efficace est long. Toutefois, fort de la volonté du chef de l'État et l'engagement du gouvernement, des avancées significatives sont en train d'être enregistrées sur l'accès, l'équité, le maintien de la jeune fille à l'école, l'alphabétisation et l'éducation non formelle, la qualité des apprentissages et enseignements, mais aussi la gouvernance du système éducatif où la reddition des comptes, l'imputabilité et la redevabilité soient des valeurs cardinales.
Est-ce que l'éducation est le premier poste de dépense de l'État au Niger à l'heure actuelle?
Exactement, l'éducation est au même pied d'égalité effectivement que la sécurité. Et je vous assure, dans le programme de renaissance acte 3 du président de la République, à travers aussi la déclinaison au niveau gouvernemental, c'est-à-dire la politique, la DPG, la politique générale du gouvernement, l'éducation a une place de choix. Actuellement, nous sommes aux alentours de 20% du budget de l'État et qui va évoluer progressivement jusqu'à 22%. Et nous sommes confiants d'une chose, si les foyers d'insécurité vont se taire dans les différentes zones, bien sûr, j'en suis convaincu, ce chiffre-là va aller aussi à la hausse.
Merci à vous, Ibrahim Natatou, d'avoir été en ligne chez 8 milliards de voisins. Ministre de l'Éducation nationale au Niger, très bonne journée à vous, monsieur Natatou.
Merci beaucoup, Emmanuel Bastide, pour tout ce que vous faites pour la promotion de l'éducation en Afrique en général, mais aussi en particulier pour le Niger. On a besoin des émissions comme ça pour faire l'étalage de tous les problèmes que nous avons dans le système éducatif. Il n'y a pas de développement sans un système éducatif fiable.
Merci à vous, Ibrahim Natatou. On parle dans cette émission des problèmes, mais bien évidemment, on parle aussi des solutions. 8 milliards de voisins, sommes-nous trop nombreux pour aller tous à l'école? On en discute.
RFI à Maradi, 96.2 FM.
Et vous pouviez bien sûr nous téléphoner, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. Amélie Gagnon, vous êtes démographe. Est-ce qu'il faut lier la démographie scolaire avec les difficultés d'un système éducatif?
Bien sûr, parce que les deux, en fait, c'est un peu l'œuf et la poule. Donc, est-ce que c'est la démographie qui crée une pression sur le système éducatif ou est-ce que c'est justement la mise en œuvre des politiques éducatives qui influence la démographie, les différentes dynamiques démographiques? Je reprends peut-être une intervention d'un premier voisin en tout début d'émission qui a été aussi reprise par le ministre Natatou. C'est-à-dire que un système chargé, une forte demande donc pour l'éducation, c'est un bon signe. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement un intérêt pour les familles de scolariser leurs enfants. C'est aussi une pression sur justement la capacité des ministères à offrir donc ces services. Et donc, l'arrimage entre cette demande et l'offre, donc de la part du gouvernement, c'est l'enjeu principal de la planification de l'éducation. Donc, ce travail que font les officiels dans les ministères, que ce soit dans la capitale ou dans les districts, dans les provinces, pour justement anticiper ces demandes, prévoir la formation, le recrutement et le déploiement des enseignants, prévoir justement la création de ces classes. Et comme le ministre Natatou l'a dit, effectivement, quand on doit construire 3 000 à 4 000 écoles par année, mais qu'on a la capacité effectivement d'en construire seulement 1 000, eh bien, c'est là que ces espèces de jeux de pression et d'arbitrage doivent se faire.
Ce qui veut dire que même quand un pays investit beaucoup dans l'éducation, hein, comme c'est le cas du Niger, on a quand même ce sentiment que l'État ne suit jamais aussi vite la démographie scolaire. Patrick Monjouridef, est-ce qu'il y a des pays qui, dans l'histoire, sont parvenus à surmonter ce trop d'élèves? Parce qu'on le voit bien, quand on a une centaine d'élèves par classe, évidemment que les élèves ne parviennent pas à apprendre dans de bonnes conditions.
Oui, bien sûr, il y a des exemples. Et d'ailleurs, le ministre Natatou a été très humble parce que le Niger a effectué des progrès incroyables en termes de scolarisation des enfants. Il faut savoir que la population en âge d'aller au primaire au Niger a été multipliée par 3 entre 2000 et 2020. C'est les projections à 2030. Entre 2000 et 2030, la population va être multipliée par 3. Mais le Niger, depuis les années 2000, est passé d'un nombre d'enfants scolarisés d'environ 600 000 au début des années 2000 à 2,8 millions en 2020. Donc ce sont des progrès assez importants. On a des pays comme l'Éthiopie, le Congo, le Rwanda qui sont proches de la scolarisation primaire universelle, avec maintenant la question de comment est-ce qu'on traduit cette scolarisation primaire universelle en une scolarisation universelle de qualité avec des apprentissages, parce que les apprentissages restent assez faibles.
Alors, on va rester un peu sur la question de ces pays qui ont une très forte démographie, qui ont aussi, en toile de fond, aussi des problèmes de crise sécuritaire, puisque le ministre Natatou en parlait pour le Niger. Un message de fidèle aussi à Ziguinchor, qui est en Casamance, au Sénégal, nous dit « Le problème, c'est que beaucoup d'enfants abandonnent très tôt les études parce que leurs parents n'ont pas de moyens. On préfère que les enfants partent aider au champ ou à la maison. » hein, quand il y a une urgence aussi pour faire fonctionner la survie de la famille. Un message aussi de désir qui est à Port-au-Prince en Haïti. La situation en Haïti est très compliquée. Nombreux sont les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Le taux de scolarité est très faible. L'instabilité politique, le manque de volonté des autorités ne fait qu'empirer cette situation déplorable. La rentrée qui était prévue pour ce mois d'octobre a été annulée en raison de la montée du prix de l'essence notamment. La population appelle à la révolte parce qu'elle n'a pas les moyens de subvenir aux besoins les plus importants. On croise les doigts pour espérer que cette situation s'améliore à la fin de l'année de manière à ce que nos enfants puissent gagner les salles de classe. Nesmi Maniga, vous êtes à la fois un expert de l'éducation mais aussi un acteur en tant que ministre de l'éducation dans l'une des situations scolaires les plus compliquées au monde à l'heure actuelle, en Haïti. Et vous êtes ministre de l'Éducation pour la deuxième fois dans votre pays. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de la situation scolaire pour les 4 millions d'élèves qui découle en fait du chaos général?
Merci Emmanuel Bastide de me donner la parole. Effectivement, vous l'avez bien dit, je redouble la classe dans un certain sens. Ça fait la deuxième fois que je reviens à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes aussi une observatrice avertie de la situation scolaire en Haïti. Vous et moi, nous avons couvert en 2010 déjà les résultats du tremblement de terre. Je commence par le dire ainsi. Pourquoi ? Parce que l'école haïtienne est prise dans un tourbillon de défis successifs, à la fois des catastrophes naturelles qui affecte tout ce qu'il y a comme infrastructure, mobilier. Deuxièmement, en plus de ceci, je pense que l'auditrice d'Haïti l'a dit, on vit une instabilité politique qui s'est aggravée depuis, malheureusement, l'assassinat de notre président de la République en 2021. Ceci a aggravé la situation. Et aujourd'hui, je pense que à ceci s'ajoute ce que moi je dis, qui est une colère juste d'une population très appauvrie, et qui arrive difficilement à faire face et à dépenser, à avoir les ressources pour investir dans l'éducation. Et vous vous souvenez très bien, on en a longtemps discuté, et c'est qu'à Haïti, 80% des écoles sont privées. Oui. Les parents sont obligés de dépenser au moins leurs revenus pour envoyer leurs enfants à l'école.
C'est l'un des pays au monde où l'éducation est la plus privatisée et où les familles contribuent le plus financièrement à financer le système éducatif, alors que c'est aussi un des pays les plus pauvres au monde.
Malheureusement, avec le Liban, on partage un peu ce malheureux trophée hein, de déléguer aux parents, à des parents très pauvres en Haïti, qui dépensent, parmi les parents les plus pauvres, près de 40% de leurs revenus au niveau de l'éducation. Alors l'école est pris, disons, piégée par cette colère juste d'une population pauvre, comme vous l'avez dit, qui doit faire face à un prix de l'essence qui a augmenté, et aussi par rapport à un État affaibli qui n'avait pas les moyens et qui doit justement de se trouver d'autres choses pour pouvoir survenir, non seulement donner plus de services publics. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que l'école haïtienne aujourd'hui, au niveau de la rentrée 2022-2023, connaît des difficultés énormes. On observe quelques écoles ouvertes dans la périphérie des grandes villes, ça reste un défi énorme au niveau des centres urbains en Haïti. Tout ce qu'on espère, étant donné que, heureusement, les produits pétroliers commencent à être et disponibles sur le marché, bien sûr avec un prix qui a augmenté, on espère effectivement que dans les prochains jours, cette situation va s'améliorer.
Ça veut dire que clairement, l'école ne rouvre pas, les écoles ne rouvrent pas pour les 4 millions d'élèves, ou pour la plupart en tout cas, tout simplement parce que les familles ne peuvent pas payer les sommes nécessaires pour les envoyer à l'école.
C'est une double difficulté. Je pense que ceci est un élément aggravant. Mais il y a eu quand même, vous l'avez suivi dans les nouvelles, et disons la situation politique tendue, c'est un gouvernement de transition, on doit organiser bientôt les élections, et aujourd'hui, il n'y avait pas d'essence du tout dans les stations. Aujourd'hui que l'essence a commencé à être disponible il y a une semaine, on espère que la situation va graduellement s'améliorer. Dans la périphérie, alors on observe, parce que les dernières statistiques dont on dispose au niveau du ministère de l'Éducation nationale, je peux dire qu'entre dépendamment des régions du pays, la première semaine qui correspond à la disponibilité de l'essence, on a fait des bons d'environ 7 jusqu'à 18% en fonction des différents départements, ce qui tarde à être vu, à être observé dans les centres-villes, en particulier de Port-au-Prince.
Juste un petit rappel pour les auditeurs qui nous écoutent, notamment dans certaines villes du continent africain, ça veut dire que vos écoles ne sont pas accessibles à pied pour les élèves ? Il faut du carburant ?
Et alors, il y a deux choses. Dans un milieu rural, les écoles sont les enfants peuvent aller à l'école à pied. Mais la situation politique était tellement tendue que et c'était tout à fait compréhensible que les gens disaient tout le monde doit aller à l'école en même temps. Aujourd'hui que l'essence commence à être disponible, je crois que la situation va s'inverser et que graduellement, le milieu rural a commencé par donner le ton et les villes vont suivre graduellement. Du moins, c'est ce qu'espère le ministère de l'Éducation nationale et les parents en général.
Il faut rappeler aussi que la situation sécuritaire pèse hein, également sur les écoliers. On est dans un pays où des élèves peuvent être kidnappés simplement parce qu'ils portent un uniforme et qu'on subodore qu'ils ont quelques pièces dans leur poche. Ça peut sembler inimaginable hein, tout de même. Et on fait le grand écart avec la situation au Niger. On a cette croissance démographique énorme qui est très difficile à résoudre pour piloter le système éducatif. En Haïti, c'est pas un problème de démographie fondamentalement.
Non, je pense que Haïti, bon, c'est vrai qu'on continue d'avoir l'indice de fécondité le plus élevé de la région de l'Amérique latine Caraïbe, mais il faut dire quand même qu'on passe de 5% à 2,84%. Ce qui se passe, ce n'est pas un problème démographique parce que on a fait des progrès récents. Aujourd'hui, le taux net de scolarisation avoisine les 90%. Il y a une demande massive d'éducation, justement, qui s'est accompagnée d'une faible capacité de l'État à y répondre. Je pense que l'une des difficultés que le gouvernement a et que tout ministre d'éducation en Haïti doit gérer, c'est le pourcentage du budget alloué au système éducatif, ce qui handicape l'offre publique d'éducation et ce qui handicape la capacité de tout ministre d'éducation à pouvoir faire face à des difficultés énormes, la formation des enseignants, le développement professionnel des enseignants, les différents salaires. Quand j'avais laissé le ministère en 2016 la première fois, on était autour d'un budget qui avoisinait les 20%, ce qui était raisonnable. C'est la norme, c'est l'indicateur prescrit par des différentes institutions internationales, dont le Partenariat mondial pour l'éducation. Et aujourd'hui, on est redescendu pratiquement autour de 10%. C'est catastrophique.
Parce que le budget de l'éducation a été divisé par deux, donc.
Pratiquement, on peut le dire, alors que, justement, la demande sociale d'éducation augmente, heureusement d'ailleurs. Les familles en Haïti veulent envoyer leurs enfants à l'école. Et aujourd'hui, vous avez parlé du logiciel éducatif. Il faut faire des réformes en profondeur, des réformes majeures qui nécessitent qu'on revoie certains dispositifs, dont la qualité des manuels scolaires.
Alors, pas seulement en Haïti, voilà. Hein, mais on va en parler. Amélie Gagnon, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, comme le ministre Maniga dit, une fois qu'on accumule la stabilité ou l'instabilité géopolitique, le climat difficile, certaines conséquences sanitaires. En Haïti, justement, il y avait quelques cas de choléra, justement. Et c'est très difficile de planifier l'éducation, d'organiser un système éducatif, de gérer un système éducatif sans des institutions très fortes, stables, avec la capacité d'agir, en fait. Et donc, agir, enfin, pour gérer le système, mais aussi pour avoir cette architecture de données qui permet justement d'avoir l'information nécessaire pour ajuster l'offre éducative et ajuster justement le déploiement des enseignants, la livraison du matériel éducatif, les cantines scolaires et compagnie, la force de l'État pour mener des recensements nationaux de la population et pour financer.
Un système éducatif, c'est finalement assez fragile. Quand c'est déstabilisé, c'est très difficile à remettre sur pied. Alors, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Sommes-nous trop nombreux pour aller tous à l'école?
8 milliards de voisins.
Une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
Voilà, toujours plus de défis, mais plus d'opportunités. Ne l'oublions pas aussi. Nous donnons la parole à Djoumé qui nous appelle, une voisine à Bamako, Mali. Bonjour Djoumé, soyez la bienvenue chez 8 milliards de voisins.
Bonjour les voisins, bonjour à toute l'équipe RFI.
On vous écoute, Djoumé.
Ok, je suis à Bamako. Pour ce qui concerne l'éducation dans mon pays, j'avoue que c'est très très difficile l'accès à l'école. Au nord du pays, au centre, à l'ouest, et dans beaucoup de coins reculés où l'insécurité joue négativement sur l'école. Les enfants n'ont pas accès à l'école. Donc, ils sont obligés de rester à la maison. Les enseignants également sont menacés par la plupart du temps par les terroristes. Quand ils viennent à l'école, on vient, on les menace, on les tabasse. Souvent, on les enlève. Donc, du coup, quand les enseignants ont vu que leur vie n'est pas sécurisée, ils ont tout simplement déserté ces écoles-là. Donc, plus de 40 à 50, je ne peux pas donner une statistique fiable, mais plus de 50% des établissements sont fermés dans ces localités-là.
Ce qui veut dire qu'il y a une énorme pression sur la capitale Bamako, bien évidemment, avec énormément de populations déplacées et une surpopulation scolaire à Bamako.
Effectivement, il y a une surpopulation très, très énorme à Bamako. Les quelques établissements privés qui ne sont pas nombreux recueillent beaucoup, sont en effectif pléthorique. Donc, les enseignements privés sont réservés aux nantis. Parce que j'avoue que si tu n'as pas un certain nombre de revenus, tu ne peux pas du tout envoyer ton enfant dans des établissements privés de qualité.
Oui.
Donc, ce qui fait que les enfants des pauvres, souvent par manque de moyens, sont obligés de rester à la maison. Oui. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc, du coup, ça augmente le nombre de délinquants dans la ville.
Voilà, c'est la double peine hein, entre la crise qui se rajoute à la pression démographique et la pression démographique qui devient du coup un énorme problème. Merci beaucoup, Djoumé, de nous avoir appelé. Écoutez aussi le message d'Olivier qui a posté sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Il est à Lubumbashi en RDC.
Bonjour les voisins, c'est Olivier depuis la République démocratique du Congo. Quant à ce qui concerne l'éducation dans notre pays, elle est encore revue à la baisse car plusieurs atrocités y sont liées, les guerres incessantes qui conduisent au déménagement inattendu des familles, des violences et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants? Même les encadreurs aussi n'arrivent pas à enseigner ou soit à se donner cette peine-là d'aller à l'école enseigner. Merci beaucoup.
Nesmi Maniga, vous souhaitez intervenir sur la situation de la RDC qui fait partie des pays fragiles et où on le voit bien, les déplacements de population renforcent encore le problème de la démographie scolaire.
Et la RDC, je pense que a envoyé des signaux très positifs ces dernières années. Bien sûr, on est tout à fait conscient de la grande difficulté parce que dans beaucoup de zones de ce pays qui fait partie des pays membres du Partenariat mondial pour l'éducation, je pense qu'on a vu d'énormes défis. C'est un pays qui, pratiquement, pendant cette décennie, qui a vu, le taux d'achèvement passer pratiquement de 29% à 70%. Je pense que c'est un excellent résultat.
C'est-à-dire 70% des élèves restent jusqu'à la fin de l'école primaire.
C'est ça exactement. Je pense que l'autre bonne nouvelle, c'est un peu, je souhaite féliciter le Niger. Justement, il y a quelques années, qui avait un grand défi sécuritaire, on a vu son budget d'éducation diminuer. Là, je pense qu'ils ont redoublé l'effort, ils sont remontés à 20%, c'est une très bonne chose. C'est la même chose qui se passe en RDC, qui a un pourcentage d'environ de 9% de dépenses publiques en 2010, aujourd'hui qui avoisine les 20%. Ce sont d'excellents résultats. Croire que c'est un pays qui fait quand même face à certaines difficultés. 3,5 millions d'enfants qui sont en dehors du système scolaire, dont pratiquement plus de la moitié en zone rurale. C'est un peu la même difficulté de beaucoup de pays affectés par des crises. C'est un peu, et si je reviens à la situation d'Haïti aussi, je pense que ce qu'il faut voir, il faut qu'on voit quelle est la représentation que les populations se font de l'école. Souvent, je prends l'exemple ces dernières semaines, vous voyez en Ukraine, 4 millions d'enfants en Ukraine, 4 millions d'enfants en Haïti. En Ukraine, les enfants vont à l'école. En Haïti, la grande difficulté, c'est que de plus en plus, il faut se reposer la question sur l'utilité sociale ou la représentation que les gens se font de l'école. C'est évident que la question de sécurité devient quelque chose d'extrêmement difficile, vous l'avez dit, les enfants risquent d'être kidnappés sur le chemin de l'école, mais je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire, parce que dans des pays comme le Niger, les pays du Sahel, on l'a vu, qui font face aussi au terrorisme, qui font face à tout ce qu'on voit, il y a une remontée, il y a tout un discours des sociétés civiles qui s'investissent pour dire qu'il y a la guerre ou non, que la situation soit difficile, on ne peut pas ne pas envoyer nos enfants à l'école, justement parce que l'insécurité, c'est une cause, c'est une conséquence. L'insécurité, c'est une conséquence d'enfants délaissés, d'enfants qui n'ont pas beaucoup d'opportunités et que soit les groupes terroristes, soit les gangs peuvent recruter facilement.
Oui, bien sûr. Mais Patrick Monjourides, Nesmi Maniga le disait, il y a beaucoup de pays maintenant sur le continent africain qui dépensent beaucoup pour l'éducation. Et pourtant, le dernier rapport sur l'éducation de l'UNESCO, le rapport mondial, montre bien que les enfants du continent africain sont davantage pénalisés que les enfants du reste du monde pour apprendre des savoirs fondamentaux comme lire, écrire, compter. Alors, comment ça se fait ?
Oui, alors le rapport Plein Feu, donc c'est le nom du rapport qui a été publié il y a 4 semaines à l'île Maurice pendant la triennale de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, se focalise sur les apprentissages de base. Et le constat principal qu'on fait, c'est que l'enfant africain a 5 fois moins de chances que n'importe quel autre enfant dans le monde d'apprendre les bases en lecture et en mathématiques. Et donc il y a un nombre de facteurs qui convergent pour faire des situations difficiles pour les ministres de l'éducation. La République démocratique du Congo a participé donc au rapport Plein Feu et on les en remercie. Et c'est un pays qui est assez emblématique des problématiques que certains pays africains peuvent auxquels ils peuvent faire face. Par exemple, en République démocratique du Congo, vous avez sur chaque 10 euros qui est dépensé en éducation, 4 euros est à la charge des ménages. Et les communautés ont joué un rôle extrêmement important dans le pays dans les dernières années, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui n'étaient pas payés pendant une année, voire 2 années. Et ils pouvaient uniquement venir à l'école et enseigner parce que les communautés intervenaient.
Récemment, c'est-à-dire payer les enseignants.
C'est-à-dire payer les enseignants, que ce soit
Notamment avec les frais de motivation scolaire qui sont bien connus en RDC.
Exactement. Mais récemment, donc, le gouvernement de RDC a effectué une opération d'identification des enseignants qui n'avaient pas été payés pour les intégrer sur le payroll.
Et ça veut dire qu'un pays comme la RDC ne dépense jamais suffisamment pour éponger le déficit d'éducation ?
À l'heure actuelle, pas encore. Et de manière générale, il faut savoir que les pays africains sont principalement des pays à faible revenu, font partie du groupe des pays à faible revenu, et dépensent, le pays africain moyen dépense 50 euros par enfant dans le primaire, ce qui est 8 fois moins que ce qu'on dépense en Amérique latine et Caraïbes et 20 fois moins que ce qu'on dépense en Asie.
Donc, ça veut dire que finalement, Amélie Gagnon, la réponse, l'explication, elle est d'abord financière ?
Bonne question, parce qu'il y a effectivement une question de financement de l'éducation, mais il y a aussi une question d'allocation de ces ressources. Et donc la question, c'est de savoir justement, quand on parle de RDC, les besoins d'une école à Kinshasa ne sont pas du tout les mêmes que les besoins de l'école à Bandaka. Et donc, si on connaît le contexte, on peut voir qu'effectivement, la façon d'allouer les ressources doit être faite en fonction des besoins, des attentes, des expectatives des communautés, et donc d'adapter les politiques éducatives, les programmes. Parfois même, on parlait tout à l'heure avec le ministre Natatu de la langue d'instruction, eh bien, c'est d'adapter le service, donc d'adapter la provision d'éducation en fonction des caractéristiques, des contraintes des communautés. Et donc, effectivement, de s'assurer qu'on tient en compte des contraintes, mais aussi on tient en compte des solutions qui peuvent être proposées localement.
Alors justement, on arrive quand même à un tournant avec cette démographie mondiale. Et il faut se poser la question, faut-il complètement changer de logiciel pour les systèmes éducatifs, en tout cas des pays qui sont les plus fragiles, les plus en difficulté, pour non seulement accueillir tous les enfants, mais aussi pour leur offrir une chance d'apprendre quelque chose? Comment aussi l'école peut résoudre concrètement les problèmes des communautés pour démontrer l'utilité immédiate de l'école? On en discute et vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et puisqu'on parle de changer complètement de logiciel pour certains systèmes éducatifs, les voisins, les voisines, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, un confinement quasi mondial que nous avons vécu en 2020, eh bien nous avions lancé sur RFI une émission tous les jours qui s'appelait « L'école à la radio » pour proposer un tout petit peu de savoir aux enfants qui étaient privés de l'école. Et en quelques jours, nous avions des centaines et des centaines de messages d'enfants qui suivaient en direct des maîtres d'école. Et parmi eux, il y avait... Allez, souvenez-vous.
Bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Je suis Gérard Sansfaute. J'ai donné ici quelques cours pendant le Covid aux élèves du primaire. Alors, nous arrivons donc maintenant à 8 milliards de voisins et de voisines. Le 8, si vous le regardez bien, c'est deux cercles posés l'un sur l'autre. Mais ils sont plus que posés. Ils sont attachés l'un à l'autre. Comme les deux maillons d'une chaîne, à la manière des anneaux olympiques. C'est cela qui me plaît dans le 8. 8, c'est le début d'une chaîne. Et dans 8 milliards, les zéros qui suivent le 8, je les vois suivre le bon exemple et se relier les uns aux autres, construire le début d'une chaîne que nous allons prolonger, nous tous, les voisins et les voisines. 8 milliards de maillons de voisins et de voisines solidaires. Toi qui m'écoutes, moi qui te parle de loin, nous allons construire ce monde solidaire à l'infini. D'ailleurs, en mathématiques, l'infini, c'est un 8 qui est couché. Et maintenant, je vais poursuivre ma route sur mon vélo et ces deux roues qui peuvent aussi prendre la forme d'un 8 si je les place verticalement. Allez, au revoir, à bientôt.
Merci Gérard Sansfaute, un instituteur qui était emblématique et tellement populaire auprès des enfants qui suivaient notre émission sur RFI pendant le confinement. L'École à la radio, vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les émissions L'École à la radio. Elles sont toujours disponibles en podcast et il n'avait pas son pareil pour faire des exercices de maths absolument désopilant et passionnant. Mais trêve de plaisanterie, faire passer du savoir autrement, aujourd'hui c'est une vraie question, notamment dans des contextes de démographie scolaire importante pour résoudre justement ce trop d'enfants dans les écoles. Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale en Haïti, membre du Partenariat mondial pour l'éducation, aujourd'hui que faut-il revoir en priorité pour repenser l'école ?
Je pense que vos deux panélistes en ont parlé, et Mme Gagnon, justement, parlait non seulement de... En fait, déjà même pour le budget, c'est à quoi on alloue les différentes ressources de l'éducation. Aujourd'hui, si très clairement, tout ce qu'on a dépensé depuis, les pays qui font énormément d'efforts, constatent que dans les premières années de l'école, les enfants ne savent pas lire correctement une phrase, ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas réfléchir et eux-mêmes s'approprier de ce que c'est que la lecture, l'écriture, et ne peuvent pas véritablement faire des exercices de base de calcul mental, dans la grande majorité des déficiences, c'est que les enfants apprennent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'est un problème fondamental auquel, heureusement, beaucoup de pays sont en train, justement, de revoir ce logiciel. Et actuellement, justement, je suis à Tachkent, où le monde,
Ouzbékistan.
Justement... en Ouzbékistan, s'est planché sur cette question. Et dans une des résolutions, c'est que dès le préscolaire, on encourage tous les pays à investir davantage dans la langue maternelle, dans le développement d'outils, de matériel didactique qui correspondent à l'univers immédiat des différents enfants, parce que c'est bien que les pays dépensent beaucoup d'argent, mais on n'apprend pas nécessairement de la manière dont on devrait agir.
Est-ce qu'il y a des exemples où, quand on enseigne dans la langue maternelle, dans la langue nationale, dans la langue du milieu, immédiatement, les résultats scolaires sont différents, sont améliorés, sans investir plus d'argent nécessairement ?
Aujourd'hui même, si vous allez sur la page Internet du Partenariat mondial pour l'éducation, on publie des résultats probants de la Sierra Leone, qui a fait un double effort. La Sierra Leone, c'est un pays qui est passé de 2012 d'environ 14% d'investissement par rapport à leur budget en éducation. Aujourd'hui, ils sont à 33%, mais qui avaient utilisé la radio pendant la COVID-19 pour faire toute une campagne et qui a réussi justement à garder motivés ses enseignants et à garder dans un environnement intelligent les familles et les élèves. Mais en plus, ils sont en train d'implémenter avec des évidences un projet qui s'appelle les cercles de lecture, mais les cercles de lecture dans la langue maternelle. Mmh. Et là, ils ont pu mesurer combien de mots les enfants dans ce groupe témoin apprennent à maîtriser davantage et les opérations de calcul de base qu'ils font. Donc je crois qu'il est évident qu'il faut qu'on revoie ce logiciel, la façon dont l'éducation est donnée dans nos pays. Il ne faut pas seulement plus d'argent, il faut mieux d'argent. Oui. Il faut mieux les dépenser. On ne peut pas aller plus loin.
Mais ça veut dire qu'il faut faire. Oui, mais ça veut dire qu'il faut faire des choix politiques. Qu'est-ce qui bloque pour qu'il y ait davantage d'écoles où la langue d'enseignement, c'est la langue du milieu, c'est la langue des familles, Amélie Gagnon. Il y a des freins politiques clairement là. Des freins logistiques aussi pour déployer les enseignants qui parlent la bonne langue au bon endroit aussi dans des pays qui ont pas mal de langues.
Effectivement. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Justement, j'étais en discussion avec des collègues d'un ministère en Afrique subsaharienne cette semaine, où justement, il y a cette envie de refaire renaître et repopulariser les langues locales. Mais effectivement, il y a vraiment la question de s'assurer qu'on ait le bon nombre d'enseignants compétents dans les bonnes langues pour les déployer dans les bons endroits. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et je crois que c'est un enjeu qu'on a vu au Tchad, en RDC, enfin un peu partout. En revanche, je crois qu'un point que soulève le ministre Maniga, c'est la question de comment prioriser, comment choisir entre deux sujets, deux enjeux qui semblent importants, comment choisir lequel investir en premier. Et je crois que l'exemple de la radio céralienne en est un très bon. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est ce que le Covid nous aura appris, c'est peut-être que effectivement on devrait s'appuyer un peu plus sur des méthodes hors classe, hors les murs, on va dire. Et donc justement la radio, la télé, le papier ont été réutilisés pendant cette période pour justement essayer de favoriser l'apprentissage même pendant les fermetures scolaires.
Ou même l'apprentissage via tout simplement un smartphone, via des applications.
Aussi. Par contre, là, il faut être un peu prudent parce qu'effectivement, la technologie, oui, ça fait partie de l'équation. Oui, ça fait partie peut-être même de la solution. Mais il faut être prudent. Les études qui commencent à documenter l'utilité ou le succès des plateformes en ligne pour justement s'assurer d'un maintien ou d'une amélioration des résultats d'apprentissage ne sont pas nécessairement concluants. Une étude des Pays-Bas, justement, dans un contexte, on pourrait dire, le meilleur contexte possible avec l'électricité, Internet, tout ce qu'on peut imaginer, a des résultats très mitigés en termes de résultats d'apprentissage post-Covid, donc durant la période de Covid. Donc, il faut être prudent. Je crois que plus on réussit à collecter un peu d'évidence, des données probantes, faire quelques études pour voir justement les difficultés que les apprenants et les apprenantes ont eues pendant la période de Covid, on pourra mieux s'assurer. Mais je crois que encore là, la solution se passe vraiment au niveau local. Dans quelle communauté la radio fonctionne, dans quelle communauté le papier fonctionne ou l'Internet, là, on pourra vraiment adapter nos systèmes éducatifs et puis les appuyer sur des formations dans les écoles et hors école.
L'école est très en retard sur les nouvelles opportunités avec le numérique, Nesmi Maniga, selon vous?
Absolument. Je crois qu'il faut... Au fait, ce n'est pas l'un ou l'autre. Je crois que... Et d'ailleurs, au niveau du Partenariat mondial pour l'éducation, ce qu'on préconise, et on a même financé d'énormes et beaucoup de pays pendant la COVID-19 pour faire de manière très contextualisée ce triangle qu'on appelle le no-tech, le low-tech et le high-tech. Quand c'est possible, là où ce n'est pas du tout possible, à ce moment-là, on fait des imprimés, des supports papier, on fait circuler l'information dans les familles au niveau des enseignants parce que la technologie n'est pas disponible. Là où c'est possible, on fait le low-tech avec la radio, avec les groupes WhatsApp. Et on voit que beaucoup de pays, le Pakistan, l'Ouzbékistan, les pays qu'on supervise, on voit que ça marche. Par contre, il y a des pays émergents où effectivement, il y a un mix des trois qui peuvent utiliser, quand l'Internet le permet, des solutions hybrides. Et il y a d'autres solutions où on peut déjà utiliser des supports numériques sans Internet, offline. Mm-hmm. Actuellement, en Haïti, on est en train de faire un double effort. Un, on est en train justement de rendre disponibles des matériels didactiques et dans les premières années de l'école, des manuels en créole, ça c'est une chose. Mm-hmm. On est en train d'investir pour qu'il y ait une radio nationale totalement dédié à l'éducation, à la culture et à la science. Donc, c'est un grand défi qu'on a dans un pays qui, de toute façon, souffre des problèmes énormes d'électricité. Donc, il faut qu'on y aille. Mais des solutions offline existent aussi, parce que les parents, les enfants dans certaines régions ne nous demandent pas la permission. Ils commencent bien avant le système et on a du mal à les rattraper.
Tout à fait.
Il vaut mieux investir un peu dans cette trilogie.
Tout à fait. Patrick Monjourides, on arrive au terme de cette émission. C'est clair que l'objectif d'une éducation de qualité pour tous les enfants d'ici 2030, qui était fixé par les Nations Unies, risque de ne pas être atteint. Qu'est-ce qui donne des pistes, là, aujourd'hui, d'espérer de réels progrès dans les années à venir, malgré cette démographie mondiale qui, certes, est en train de freiner, mais qui va mettre des années à freiner et à redonner un peu d'oxygène dans les salles de classe?
Ce qu'on voit, c'est que le ministre Maniga ainsi que le ministre Natatu sont de très bons exemples, c'est qu'il y a des visions claires maintenant qui sont établies au niveau national par les pays avec pour objectif une amélioration des apprentissages de base. Et ça inclut notamment cette importance de l'enseignement dans la langue maternelle. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage, c'est avant tout une aventure pédagogique. Et donc, le développement des technologies est certes important, mais il faut continuer de développer toutes ces méthodes pédagogiques qui permettent d'apprendre les langues de la région africaine, qui est extrêmement riche, avec des pays qui ont plus de 200 langues.
Et partager les expériences aussi.
Et partager les expériences entre les pays.
Exactement. De la planète. Et merci en tout cas à tous les trois. Merci Nesmi Maniga d'avoir été en direct avec nous, ministre de l'Éducation nationale d'Haïti, membre du Partenariat mondial de l'éducation. Et vous étiez à une conférence sur la petite enfance à Tashkent, en Ouzbékistan, justement, pour partager les savoirs éducatifs. Merci à vous, Amélie Gagnon, démographe à l'Institut international de planification de l'UNESCO. Et puis, merci à vous, Patrick Monjourides, analyste principal des politiques éducatives sur le rapport mondial de suivi sur l'éducation à l'UNESCO, qui est en ligne d'ailleurs. Demain, dernière émission de notre semaine spéciale 8 milliards. Sommes-nous trop nombreux pour être heureux? Nous parlerons de la félicité des pays d'Europe du Nord, de la résilience et du yoga en Inde, du business de l'optimisme aussi, et bien sûr vos témoignages et vos commentaires philosophiques sur le bonheur à 8 milliards d'habitants nous intéressent. Vous pourrez nous contacter au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec Queen 92.
So perfectly, and this don't happen often. We got so much in common. Damn, two peas in a pod, best friends with the OGs of the squad. Used to kick back, smoke weed and the like, with the munchies, Kraft mac and cheese in the pot. We vibrate. You hate the movies that I hate, and you like the music that I play. And we bump that shit down the driveway. We both dropped out, we're a little too dumb. Both got it that it gets a little too drunk. The only thing I still rely on, only thing I still get high on is you and me. Go together so say thank you, 'cause life changed everything and it ain't changed you. Even when I think the world's working against me, you take the time to tell me, Sean, you know that ain't true. I mean, way back before I was my worst critic, you know the lies inside your head are the worst kind. You always taught me it was beauty in my first mind, and you was with me out there shroomies for the first time. And I was tripping but never slipping. Your mama loved me like I'm folk, like one of her children. I put the faith inside our love, it's like a new religion. And you didn't see me at my worst and they look at me different. Could put the world against you.
Milliards de voisins, c'est toute une équipe qui prépare chaque jour les émissions du lundi au vendredi. Damien Roucou, Zeynaba Diallo, Divine Berthoud, Romain Dubrac et Didier Cherouz. Les voisins et les voisines, vous pouvez bien sûr réécouter toutes nos émissions quand vous êtes tranquille, à l'heure qui vous convient, par exemple pendant le week-end.